Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens du 23 mai 2018. On est déjà mercredi. C'est Hélène Denis qui vous accompagne et qui salue Jean-Sébastien Laliberté. Bonjour Jean-Sébastien.
Liberté qui vous retourne vos salutations, Hélène.
Alors mon cher, tout va bien de votre côté?
Oui.
Êtes-vous venu en moto ce matin?
Oui. Je suis venu en deux roues, malgré les problèmes de congestion routière
Vous n'avez pas peur des nids de poules? Moi, il me semble que je serais terrorisée.
Plus peur des gens qui ne vérifient pas leurs angles morts avant de changer de voie.
Il faut être vraiment prudent, hein?
Oui.
Conduire est un sport dangereux.
Le meilleur conseil qu'on m'a donné vient de notre autre technicien à la mise en onde, Mathieu, qui m'a dit ça. Il faut conduire comme si tout le monde essayait de nous tuer. Donc, faut vraiment avoir des yeux tout le tour de la tête.
C'est extrême, mais c'est vrai. Il a raison. Alors, Jean-Sébastien, je vous laisse aller avec les éphémérides.
En ce 23 mai, on commence notre périple en 1633. L'administration Richelieu nomme le premier gouverneur de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain. En 1785, Benjamin Franklin annonce l'invention des lunettes à double foyer. 1873, création de la police montée du Nord-Ouest qui deviendra la Gendarmerie royale du Canada en 1920. 1887, toujours un 23 mai, arrivée à Vancouver du premier train de la Canadian Pacific Railway. 1915, entrée de l'Italie dans la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, dans le camp allié. 1934, en Louisiane, dans la ville de Sale, on va se contenter de... Dans l'état de la Louisiane, les gangsters Bonnie Parker et Clyde Barrow, Bonnie and Clyde, sont abattus par la police dans un véhicule qu'ils avaient volé. 1945, capturé par les Britanniques, Heinrich Himmler, chef de la Gestapo, se suicide au cyanure. 1946, encore un 23 mai, les communistes chinois prennent Shanghai. 1975, à Cannes, le Québécois Michel Brault est primé pour Les Ordres, son film portant sur les arrestations de l'automne 1970. 1982, au Vatican, ont lieu des rites de béatification du frère André, lui de son vrai nom né Alfred Besset, créateur de l'oratoire Saint-Joseph. 1983, à London, en Ontario, John Adams bénéficie de la première greffe du cœur et des poumons au Canada. En 2006, un fait qui n'est pas sans rappeler la situation qui a lieu présentement aux États-Unis. Pour les questions des journalistes, en 2006, Stephen Harper instaure l'inscription préalable à une liste où il compte choisir ses préférés.
C'est vrai, ça nous rappelle quelque chose.
Oui, la démocratisation de l'information. Hein? En 2007, à Québec, la Cour supérieure donne raison au CHUL qui a besoin de transfusion de sang pour sauver des bébés prématurés contre le gré des parents adeptes des témoins de Jéhovah, donc eux qui refusaient les transfusions sanguines. La Cour supérieure donne raison au CHUL qui voulait sauver les enfants. Et anniversaire de naissance du physicien John Bardeen. John Bardeen, qu'on ne connaît pas tant de nom, mais qui est l'inventeur du transistor. Qui dit transistor dit radio à transistor, donc quand même un personnage clé dans l'invention de la radio.
On le remercie, on l'aime.
Et en 2013, il y a donc 5 ans aujourd'hui, s'éteignait l'auteur, compositeur et interprète Georges Moustaki.
Ah oui, ça fait déjà 5 ans, ça va déjà trop vite. Merci Jean-Sébastien. À la une de la presse, sommet du G7, les gens ont vraiment peur de manifester. L'ampleur des mesures de sécurité déployées par les autorités effraie beaucoup de protestataires potentiels. À 2 semaines de l'événement qui réunira les dirigeants des 7 pays les plus riches du monde, tout porte à croire que la Malbaie ne sera pas le théâtre de grandes manifestations, selon divers organismes et militants interrogés par la presse. Chronique d'Yves Boisvert, affaire Roson, le droit au temps du MeToo. Une attaque au criquet vise une firme d'architectes. La chronique d'Hugo Dumas, aucune raison de renouer avec 13 raisons. Il parle ici de la télésérie.
Musique.
La peur de l'appareil sécuritaire ne touche pas seulement les manifestants dans Charlevoix, les organisations qui planifient des actions citoyennes à Québec pendant la tenue du sommet international disent, elles aussi, se heurter aux craintes de la population. C'est difficile de mobiliser les gens, il faut faire de la mise en contexte et contrer la peur semée par les policiers et certains médias, dit Anne-Valérie Lemieux-Breton, coordonnatrice du regroupement d'éducation populaire en action communautaire, REPAC, des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. On nous annonce 500 millions pour les mesures de sécurité, on dit que des places ont été libérées dans les prisons, on établit une fausse zone de liberté d'expression dans un stationnement. Tout ça, ça sert à faire taire les manifestants, à faire taire les vraies critiques du G7, ajoute Mme Lemieux-Breton. Son organisation est au cœur des activités planifiées à Québec, que ce soit une marche dans les rues de Québec le 7 juin, ou un forum alternatif qui aura lieu devant l'Assemblée nationale le 9 juin. Pour le moment, les organisateurs sont loin de s'attendre à ce que des foules comparables à celles du sommet des Amériques de 2001 à Québec déferlent dans les rues. À l'époque, les protestataires s'opposaient à l'adoption de la zone de libre-échange des Amériques, enjeu qui avait fédéré beaucoup de monde. En 2001, il y avait 60 000 personnes dans les rues. Il y avait une vraie effervescence, une vraie énergie, se souvient Ronald Cameron, de l'organisation altermondialiste Attaque Québec. Si, selon lui, la peur explique en partie le manque d'ardeur des protestataires en 2018, elle n'est pas le seul facteur. Logistiquement, c'est vraiment compliqué à cause du Grand Prix de Formule 1 qui a lieu autour des mêmes dates. C'est difficile de louer des bus pour se rendre sur place, donne-t-il en guise d'exemple. La première visite officielle de Donald Trump au Canada ne semble pas non plus changer la donne. Trump fait l'unanimité contre lui et n'en fait qu'à sa tête. La plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose contre lui, dit Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec. Malgré cette explication, le président d'Attaque Québec tentera de convaincre le plus grand nombre possible de personnes de se joindre à lui dans les rues de Québec. Le premier ministre du Canada sera à la Malbaie aujourd'hui pour préparer le sommet des leaders du G7 qui aura lieu les 8 et 9 juin au manoir Richelieu. À 18h, il rencontrera les citoyens de la région sur le terrain de soccer de l'école secondaire du Plateau. Le juge Donald Bisson a autorisé hier l'exercice du recours collectif des courageuses contre Gilbert Rozon. Dans sa décision, le magistrat affirme que s'il avait refusé la demande, il est fort probable que de très nombreuses victimes seraient privées de l'exercice de leurs droits en justice. Le juge de la Cour supérieure du Québec a autorisé le groupe Les Courageuses à représenter toutes les personnes agressées et ou harcelées sexuellement par Gilbert Rozon afin de réclamer des dommages compensatoires et punitifs à l'ancien président de Juste pour rire. Il souligne dans son jugement que ce genre de procédure a démontré son efficacité dans les dossiers d'agression sexuelle, puisqu'il a permis à des centaines de victimes d'avoir accès à la justice. D'un point de vue très personnel, ça me redonne un petit espoir en notre système juridique parce que j'avais perdu la foi. Suite au refus du procureur de donner suite à ma plainte au niveau criminel il y a exactement un an, quelques jours près, a réagi l'une des dénonciatrices, l'entrepreneur Geneviève Allard-Lorange, lorsque la presse l'a jointe hier. Le recours au civil permet d'entreprendre des démarches différentes, mais ô combien nécessaires. Autant pour faire la paix que pour envoyer un message social clair pour les futures générations, a-t-elle ajouté. Ce qu'a dit le juge sur la difficulté de dénoncer un agresseur sexuel, les victimes ont énormément de difficultés à dénoncer les agressions, notamment en raison de la honte, des séquelles psychologiques qui en découlent, du tabou, de la peur de ne pas être crue, de la crainte de confronter l'agresseur qui est souvent une personne de prestige dans la société, comme c'est précisément le cas ici, selon les allégations de la demande, et aussi car la victime croit souvent à tort être seule et que l'agression était de sa faute. Sur le fardeau de la preuve, il est irréaliste de demander que la membre désignée fournisse une preuve matérielle ou un aveu de son prétendu agresseur, deux éléments qui de toute façon ne sont pas disponibles, surtout plus de 20 ans après les faits. Le service de police de la ville de Montréal a ouvert hier une enquête sur le déversement d'une grande quantité d'insectes visant le cabinet d'architecte Lemay, impliqué dans un projet de centre de détention pour migrants. L'attaque a été revendiquée au cours de la fin de semaine sur un site d'extrême gauche. Notre équipe de construction amateur a relâché des milliers de criquets dans les nouveaux quartiers généraux de la compagnie d'architecture montréalaise Lemay, explique le communiqué de revendication. Nous sommes opposés aux frontières, aux prisons et aux centres de détention de migrants. Nous luttons pour un monde où toutes et tous sont libres de se déplacer et de s'établir. Un monde libre de la suprématie blanche, du capitalisme, du colonialisme et du patriarcat, extrait donc du communiqué de revendication. C'est le module des incidents et des crimes haineux de la police qui mènera l'enquête. L'attaque aurait eu lieu fin avril. Le cabinet Lemay, installé rue Saint-Jacques dans Saint-Henri à Montréal, a refusé de commenter l'événement. À la fin de 2017, la firme avait obtenu deux contrats totalisant 5 millions en vue de la construction d'un nouveau centre de détention pour l'immigration à Laval, alors que l'actuel est vétuste. Le projet financé par le ministère fédéral de la Sécurité publique est d'une valeur de 56,1 millions, dis-je bien. Ce ne sont finalement pas les bureaux de Lemay qui ont reçu les criquets, mais plutôt ceux d'Elema, firme d'ingénierie partenaire de Lemay. Elle venait de déménager juste à côté dans le même bâtiment. Un projet pilote de taxi électrique est en démarrage sur le territoire de Laval. Pour y parvenir, Québec y concentre 1,6 million, tout comme la coop des propriétaires de taxis de Laval. À compter de l'automne, 28 voitures électriques circuleront à Laval et seront évaluées dans des conditions réelles d'utilisation, puisque plusieurs taxis roulent 24 heures sur 24. Le projet prévoit également l'installation de 30 nouvelles bornes de recharge. Quelques 300 employés ont été évacués hier matin du centre de tri de Poste Canada dans l'arrondissement de Saint-Laurent après la découverte d'un colis suspect dans l'entrepôt. Ils ont pu réintégrer leur lieu de travail quelques heures plus tard après qu'un robot du groupe tactique d'intervention du service de police de la ville de Montréal a neutralisé le colis qui ne contenait aucun agent explosif. Selon le SPVM, il s'agissait d'une boîte de carton d'environ 20 cm sur 20 cm. Une note a aussi été laissée, mais le SPVM n'a pas voulu dévoiler son contenu. Pakistan, des dizaines de personnes sont mortes ces derniers jours à Karachi, la plus grande ville du Pakistan où sévit une canicule avec des températures atteignant 42 degrés Celsius. Hier, a-t-on appris auprès d'EDI, la plus grande association caritative pakistanaise, qui gère notamment des morgues. Nous avons reçu 180 cadavres ces quatre derniers jours, ce qui est plus du double de la normale, a déclaré Faisal Eddy, qui dirige Eddy. La plupart de ces morts subites sont liées par les proches à la canicule, ce que nous ne pouvons vérifier indépendamment, a-t-il poursuivi. Le gouvernement de la province de Sindh, dont Karachi est la capitale, a cependant vivement contesté ces chiffres, son directeur de l'autorité de gestion des catastrophes, affirmant que seule une victime d'insolation avait jusqu'ici été signalée. L'épisode de canicule frappant Karachi, mégapole portuaire de plus de 15 millions d'habitants, coïncide avec le Ramadan, amorcé jeudi au Pakistan, mois pendant lequel des millions de musulmans dévots s'abstiennent de boire et de manger du lever au coucher du soleil.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
De son deuxième album, Le Métex, c'était Georges Moustaki avec la pièce Ma Solitude, car on a perdu Georges Moustaki il y a 5 ans aujourd'hui.
À la une du Devoir de ce 23 mai 2018, course à obstacles, une photo d'un cycliste pas tellement souriant, les nouvelles chicanes installées sur le pont Jacques-Cartier, censées ralentir les cyclistes pour assurer leur sécurité, sont cause d'accidents. BANQ Québec a imposé Jean-Louis Roy au CA. Les administrateurs ne peuvent cautionner le choix du gouvernement. Droit de la famille, les enfants du divorce seront mieux protégés. La refonte de la loi fédérale sera sans effet sur les enfants nés hors mariage. Entrevue avec Jacques Testard, menace contre l'humanité. Le père du premier bébé éprouvette français dénonce le transhumanisme. Photo prise le 24 février 1982 à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, des médecins René Friedman, Jacques Testard et Émile Papiernik montrant des photos d'Amandine, premier bébé éprouvette français. L'action collective des courageuses a été autorisée. Gilbert Rozon devra se défendre contre les allégations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui. Dénucléarisation, Trump évoque un report possible du sommet avec Kim. Couillard veut intégrer davantage d'immigrants au marché de l'emploi. Vingt ans après la dernière mise à jour du droit de la famille canadien, le fédéral donne un coup de barre pour moderniser celui-ci et mieux protéger les enfants dont les parents divorcent, ce qui laisse toutefois les enfants québécois nés hors mariage dans la même situation qu'hier, relève un expert. Alors que les appels se multiplient au Québec pour que le gouvernement adopte une réforme de son droit de la famille qui n'a plus été touchée en profondeur depuis 1980, le gouvernement fédéral a jugé qu'il lui fallait agir sur ce qu'il contrôle, la loi sur le divorce et 2 autres lois connexes. Les modifications proposées mardi visent 4 objectifs: la promotion de l'intérêt de l'enfant, la lutte contre la violence familiale, la réduction de la pauvreté chez les enfants et une meilleure accessibilité au système de justice familiale canadien. Le Québec tarde, pour sa part, à réformer son propre code de la famille. La première considération pour déterminer ce qu'est l'intérêt fondamental de l'enfant sera sa sécurité et son bien-être, tant physique qu'émotionnel et psychologique, a indiqué la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. Chaque enfant et chaque famille étant différent, le projet de loi donne des balises aux tribunaux, mais sans imposer d'arrangement parental universel. Le cas par cas est incontournable, a précisé la ministre. La nomination de Jean-Louis Roy comme PDG de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, en a surpris plusieurs, incluant les membres du conseil d'administration de l'institution. Le choix de M. Roy, en effet, était imposé par le gouvernement, a appris Le Devoir. C'est une situation bien particulière pour nous, a indiqué mardi au Devoir le président du conseil d'administration de la Société d'État, Martin Carrier. Dans le sens où on ne peut pas critiquer ni cautionner la nomination de M. Roy parce que ce n'est pas quelque chose qui a émané du CA. M. Carrier a ainsi appris le matin du 16 mai, soit le jour de la nomination de M. Roy, que la ministre de la Culture proposerait la nomination de Jean-Louis Roy au Conseil des ministres. Marie Monti a invoqué un article de la loi régissant BANQ pour faire une nomination de leur côté, celui du gouvernement, en ne consultant pas le CA. L'article 4.2 de la loi sur BANQ indique que la nomination du PDG est faite sur la recommandation du conseil d'administration. Il prévoit toutefois aussi que si le CA ne recommande pas la nomination d'une personne dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil. Dans le cas présent, le poste était vacant depuis avril 2017. Le cabinet de Marie Montpetit a refusé mardi d'expliquer sa décision. M. Carrier rappelle que le renouvellement partiel du CA et son arrivée en poste à la fin 2016 se voulait comme un tournant vers le numérique et les grands chantiers de BANQ comme la bibliothèque Saint-Sulpice. Donc, c'est certain qu'on visait un certain renouveau. On verra si M. Roy pourra l'incarner. Joint mardi soir, Jean-Louis Roy, pour sa part, a mentionné qu'il ignorait tout des mécaniques prévues pour la recherche d'un PDG de BANQ. Pont-Jacques-Cartier, gare ou chicane. Les chicanes du Pont-Jacques-Cartier, ces installations vouées à ralentir les cyclistes sur la piste multifonction, causent plus de soucis que de profits pour la sécurité des usagers. Bien au fait des plaintes qui s'accumulent, la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain ne cache pas qu'il y a de sérieux problèmes avec ces nouvelles installations. C'est sûr qu'il va y avoir des ajustements, affirme Claudia Charbonneau, la porte-parole de la Société, sans pouvoir préciser quand des changements seront apportés. Ce printemps, à la suite d'une étude commandée à une firme privée, la Société des ponts a remplacé ses habituels blocs de béton par des plaques de métal placées à la hauteur des guidons des vélos, qu'on appelle des chicanes. Installées par groupe de trois entre Montréal et Longueuil, ces installations laissent si peu de place à la manœuvre des vélos que des cyclistes sont tombés. Sur Facebook, plusieurs se plaignent des dangers créés par ces installations qui rendent le contrôle du vélo hasardeux. La Société des ponts n'était pas à même de déterminer mardi qui avait obtenu ce contrat d'étude préalable à l'installation de ces chicanes sur le pont. Le conflit entre la Colombie-Britannique et l'Alberta ne cesse de s'envenimer après que la première ministre albertaine Rachel Notley eut annoncé qu'elle ne participerait pas à une rencontre avec les premiers ministres de l'Ouest. La Colombie-Britannique a fait savoir qu'elle se tournerait vers les tribunaux pour contester une loi du gouvernement albertain. Victoria réclame une injonction et un dédommagement de la part du gouvernement albertain qui a adopté une loi pour limiter ses exportations de carburant vers la province voisine. le procureur général David Eby, a annoncé mardi le dépôt d'une requête à la Cour du banc de la Reine de l'Alberta afin de contester la constitutionnalité de la loi pour préserver la prospérité économique du Canada. Trans Mountain, Victoria se tourne donc vers les tribunaux. À moins de 5 mois des élections générales, le Parti québécois reçoit l'appui non sollicité du Parti communiste du Québec, le PCQ. En effet, le porte-parole du PCQ, Guy Roy, appelle les forces indépendantistes et aspirants au changement à mener une vigoureuse campagne populaire aux côtés du PQ, un de nos plus sûrs alliés dans notre quête d'indépendance du Québec. Une fois le PQ au pouvoir, nous serons mieux placés que quiconque pour lui demander des comptes, puisque nous aurons tous contribué à sa victoire, a-t-il ajouté. Déclaration de revenus unique, la demande de Québec rejetée aussitôt par Ottawa. Tant pis pour Québec, le gouvernement fédéral libéral rejette la demande unanime des élus québécois qui souhaiteraient que la gestion d'une déclaration de revenus unique soit rapatriée au gouvernement du Québec. L'épave d'un galion espagnol chargé d'or, d'argent et de pierres précieuses qui a coulé il y a plus de 300 ans a été retrouvée au fond de la mer des Caraïbes au large des côtes de la Colombie. Le galion des trois mâts, le San José, a été coulé le 8 juin 1708 lors d'un affrontement avec des navires britanniques. Il avait à son bord non seulement quelques 600 membres d'équipage, mais aussi un trésor dont la valeur pourrait aujourd'hui atteindre 17 milliards US. Et finalement, les sommes prélevées par la tarification du carbone dans le monde ont bondi de 50 % en 2017 pour s'établir à 33 milliards de dollars US, indique la Banque mondiale dans son plus récent portrait, selon lequel cette stratégie de lutte contre les changements climatiques a couvert environ 15 % des émissions.
Si la vie c'est de la marde, ben j'ai fourni un laxatif. Puis si l'amour pousse dans les arbres, pourquoi qu'on est aussi craintif? Si McDo mène le monde, ben je vais prendre un trio, un condo, un char, puis une blonde pour qu'on puisse se prendre en photo. Nos soirées sont un peu poches, puis nos nuits sont remplies de rêves. Y'en a des petits, y'en a des croches, puis moi je rêve à René Lévesque. Y'en a qui font des métaphores, genre la vie c'est un chemin. Moi je pousse mes gags de marde un peu trop loin. Un peu trop loin. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. J'suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler qu'il pleut d'or. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça. Ça fait un bon moment, en fait ça fait 2 mois. Sur une scène, je suis tellement bien devant des millions de gens. Mais devant toi, c'est fou de voir à quel point je suis pas pertinent. Je t'ai écrit une chanson, mais j'ai pas trouvé de titre. J'ai voulu mettre ton nom, mais je sais que c'est pas fantastique. Fait que ça fait une couple de jours que j'ai de la misère à me coucher. Je suis tombé en amour, puis ça me fait un peu chier. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler avec qui tu sors. Si la vie est heureuse, c'est parce que je l'aurais fait bien rire. Le présent est négligent, mais j'ai encore peur de l'avenir. C'est pas bien beau, c'est un peu sale, on est-tu bien à Montréal? Une petite guitare, 2-3 pétards, pour moi c'est ça le monde idéal. Les décisions, les auditions, les bons amis, la jalousie, la déception, l'admiration, mais j'ai pas le temps, faut que j'étudie. Pour être quelqu'un, pour être quelque chose, faudrait que je me botte le cul. Pour finalement mourir chauve, qu'on soit tout un peu déçus. Un peu déçus. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors.
Plus récent extrait d'Émile Bilodeau de son premier album, Rite de passage, c'était la pièce Dehors.
À la une du Journal de Montréal de ce 23 mai, il y a une chasseuse, les chasseuses harcelées. Les femmes qui pratiquent la chasse sont victimes de harcèlement psychologique et de commentaires hostiles selon une étude. Corinne Gariepi est l'une d'elles. On la voit avec un ours noir. La police enquête sur cet acte de vandalisme. Un groupe d'extrême gauche, dis-je bien, revendique une attaque aux insectes. Les chroniques de Mathieu Bock-Côté, Les hommes, des créatures toxiques, Mario Dumont, Nous sommes plus pauvres, mais silence. Michel Girard, Cette électricité dont nous n'avons pas besoin. Et la chronique de Sophie Durocher, L'air piteux de Mike Ward, peu convaincant. Elle revient sur l'entrevue qu'il a accordée dimanche à Paul Arcand à la télévision. Les chasseuses sont discriminées et harcelées. En 2016, 28,6% des nouveaux chasseurs étaient des femmes au Québec. Les femmes chasseuses sont des cibles faciles et les attaques à leur encontre sont nettement plus hostiles que celles envers les hommes pour le même comportement, expose Viviane Liu, médecin psychiatre au Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Gaspésie. La chercheuse a présenté son étude au récent congrès de l'ACFAS, qui est l'Association francophone pour le savoir, qui se tenait à Saguenay au début du mois. De plus en plus nombreuses, le tiers des nouveaux adeptes sont des femmes. Celle qui côtoie plusieurs chasseuses dans le cadre de son travail soutient que ce sont particulièrement les militants contre la chasse qui martèlent ces attaques. Elle estime que cela peut affecter l'équilibre mental et provoquer de l'anxiété. Plusieurs chasseuses québécoises affirment faire fréquemment face à des propos désobligeants, allant même jusqu'à des menaces de mort sur les réseaux sociaux. La chasseuse Corinne Gariepi souligne que pour une raison mystérieuse, les femmes sont beaucoup plus exposées que les hommes aux groupes et militants anti-chasse. Personnellement, je reçois quotidiennement des menaces, des messages haineux ou des menaces. La psychiatre a remarqué que les personnes qui attaquent les chasseuses avaient recours à des insultes sexistes et dégradantes en utilisant un vocabulaire particulièrement péjoratif dans le lexique anglo-saxon. Des médecins s'inquiètent du retour de l'amiante au Québec. Plusieurs médecins s'inquiètent pour la santé des travailleurs et des citoyens de la région de Thetford Mines et d'Asbestos, alors que les entreprises qui veulent exploiter les résidus des mines d'amiante abandonnées se multiplient. Cette activité pourrait remettre en suspension des fibres d'amiante dans l'air et exposer inutilement la population à un contaminant cancérigène, craint le Dr Philippe Lessard, directeur de la santé publique de Chaudière-Appalaches, et 16 de ses confrères du Québec. Tous ont écrit une mise en garde à Ottawa alors qu'au moins 4 compagnies lorguent leur lot de résidus miniers autour de Thetford Mines et d'asbestos pour en extraire du magnésium. Dans cette région, les compagnies minières ont laissé en héritage près de 800 millions de tonnes de résidus. L'Organisation mondiale de la santé recommande de cesser d'utiliser ce matériau sous quelque forme que ce soit. Les rivières de lave qui coulent lentement depuis le volcan Kilauea à Hawaï s'approchent d'une usine électrique. Les autorités se pressent de prendre des mesures pour protéger l'installation et éviter de très dangereuses émanations de gaz toxiques. La défense civile s'est toutefois voulue rassurante, indiquant qu'il n'y avait pas de menace immédiate sur l'entreprise géothermique de Puna, une usine de 38 mégavolts qui dépend du gouvernement de l'État d'Hawaï. Les scientifiques estiment que l'activité volcanique est peut-être annonciatrice d'une éruption majeure similaire à celle du milieu des années 1920. Le prix du lait fait craindre le pire aux producteurs québécois. Des producteurs de lait craignent d'être obligés de mettre la clé sous la porte maintenant que le prix du lait acheté à la ferme a atteint un creux historique dans le dernier mois. Une centaine de producteurs de lait se rassembleront ce matin devant les bureaux de l'Union des producteurs agricoles pour dénoncer le fait que le prix du lait à la ferme n'a jamais été aussi bas depuis 2004. Ils souhaitent que l'UPA, donc l'Union des producteurs agricoles, intervienne auprès de transformateurs comme Agropur ou Saputo, afin d'obtenir un prix qu'ils jugent plus juste. Malgré cette baisse de prix, du prix à la ferme, le consommateur paie toujours son lait à l'épicerie entre 3,34 $ et 3,66 $ pour un 2 litres de 2 %, tandis qu'il l'achetait entre 3,30 $ et 3,60 $ en 2017. En ce moment, ça nous coûte 8 cents pour produire un litre. On perd de l'argent plutôt que d'en faire, dénonce Mario Vincent, organisateur du rassemblement. Cette baisse du prix du lait s'explique par différents facteurs, notamment par le fait que les vaches produisent plus de lait en été au moment où la demande est moins grande, explique François Dumontier, porte-parole des producteurs de lait du Québec. Découverte majeure dans les déchets, l'hypothèse du meurtre de Gilles Giasson privilégiée. Les policiers ont découvert hier des objets liés à la disparition de Gilles Giasson 11 jours après que son fils eut donné 20 $ à un éboueur pour qu'il prenne ses sacs. La Sûreté du Québec n'a pas voulu révéler la nature des objets qui ont été trouvés dans un site d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès en Mauricie. Il ne s'agit toutefois pas de restes humains. Cette découverte dans les déchets renforce cependant l'hypothèse que M. Giasson, 67 ans, était victime d'un homicide. Déjà, la SQ privilégiait cette thèse après avoir fouillé le logement qu'il occupait avec son fils François Asselin. Ce dernier a été accusé vendredi dernier à Sherbrooke du meurtre de François Lefebvre, un collègue de travail. Il est aussi soupçonné d'avoir un lien avec la disparition de son père. Les agents ont continué de fouiller le site jusqu'à 19 heures et devraient continuer aujourd'hui. Un pays super âgé d'ici environ 12 ans, la qualité de vie des aînés au Canada sera un enjeu majeur. La population âgée canadienne est en pleine explosion démographique à tel point que le Canada deviendra un pays super âgé d'ici 2030, tout comme le Japon. On peut donc s'attendre à ce que d'ici 12 ans, les personnes de plus de 60 ans représenteront au moins le quart de la population, révèle le premier rapport de l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement. C'est un changement démographique important qui créera des enjeux majeurs pour la société canadienne auxquels il faut s'attaquer dès maintenant, s'entendent les experts. Il faudra s'assurer que notre société de demain sera inclusive pour les personnes âgées. Les fonctionnaires ont manifesté dans une rare unité syndicale hier en France pour défendre leur statut et s'opposer aux réformes du gouvernement lors d'une troisième journée de mobilisation depuis l'élection il y a un an d'Emmanuel Macron. Les syndicats dénoncent les orientations du gouvernement qui constituent, selon eux, une attaque contre le statut de fonctionnaire. Simplification du dialogue social, extension du recours aux contractuels, part accrue de rémunération au mérite, et accompagnement des mobilités de carrière, y compris vers le secteur privé.
Storm, le monde est storm. Je cherche le soleil au milieu de la...
De l'album Stone, hommage à Plamondon. C'était Berry's qui reprenait Le Monde est Stone, cette pièce bien sûr popularisée par Fabienne Thibault dans Starmania en 1979.
Trop de chats à Alma. Le vrai titre, c'est Trop de chats errants à Alma. C'est le quotidien qui nous informe de cette situation. Laura Lévesque, la journaliste. Alma ferait face à un problème d'errance féline. C'est ce que constate l'organisme Chats sans abri qui a déposé une pétition de plus de 1200 signatures à l'issue de la séance du Conseil de ville tenue mardi. La présidente Linda Hudon demande la stérilisation des chats errants et l'adoption d'une politique pour s'occuper de ce problème. Il y a des secteurs plus touchés que d'autres dans notre MRC, mais le problème est là. On parle de colonies de chats, a insisté Mme Hudon, qui était accompagnée de plusieurs autres membres de cet organisme. Ce groupe qui vient en aide aux chats errants depuis 2016 a déjà rencontré les élus pour connaître leur position. Après plusieurs mois de recherche et de travail, l'organisme a réalisé un document détaillant les différentes solutions pouvant réduire la présence de chats errants sur le territoire. Le document a été remis au maire d'Alma mardi. Invité à se prononcer sur le sujet, Marc Asselin a cependant questionné la présence d'une réelle problématique ou d'un réel problème sur le territoire almatois. « Je n'ai jamais reçu une plainte pour des chats. On m'a déjà parlé des pitbulls, du refuge pour animaux de Mme Bergeron. » Mais jamais de chats errants. Pourtant, toutes les plaintes se rendent à mon bureau. On me parle par contre de vitesse, ça, j'en reçois des plaintes, a exprimé le maire. Ce dernier s'est cependant dit ouvert à analyser les options pour s'occuper des animaux errants. Mais pas avant l'automne, a tranché le maire. On peut agir, mais c'est toujours en fonction de l'argent des contribuables et de ce qu'on peut faire de cet argent. Est-ce que les citoyens seraient en accord avec ça? Les prochains mois sont passablement occupés avec toute l'effervescence estivale. Mais le sujet ne sera pas laissé pour compte, a assuré Marc Asselin à propos d'une future politique concernant les chats errants. La pétition déposée mardi comptait quelque 2000 noms, mais si on exclut les gens vivant à l'extérieur, elle affiche 1200 signatures. Dans le Nouvelliste, Audrey Tremblay, le marathonien Patrick Charlebois a terminé son quatrième marathon avec succès mardi à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard. À partir de l'avenue Belvedere, il a couru 42,2 km sur la piste cyclable principale de l'île en 3 heures 15 minutes 21 secondes. Mercredi, le trifluvien sera de retour en sol québécois. Il prendra le départ à Montréal où il devrait compléter la première moitié de son Canadian Marathon Challenge, qui consiste à courir 10 marathons en 10 jours dans les provinces canadiennes. Juste de lire ça, je suis essoufflée. Rappelons que l'exploit du marathonien permettra d'amasser des fonds pour la Fondation Terry Fox. Et même si jusqu'à tout récemment, il prétendait encore que son chef, c'était le travail, voilà que Maître Jean Boulet s'est présenté mardi aux côtés de François Legault, venu confirmer sa candidature caquiste dans Trois-Rivières. Les deux hommes s'étaient rencontrés à ce sujet en août 2017. C'est dans le Nouvelliste, Marc Rochette qui signe l'article, interrogé à savoir s'il se sentait plus à l'aise de sauter dans l'arène politique maintenant que sa sœur Julie se retire. Le nouveau représentant de la CAQ croit que c'est une diversion qui aurait peut-être retenu l'attention des médias. Je pense que Julie a travaillé avec beaucoup d'énergie, d'intensité, de dynamisme. Elle est fière de ce qu'elle a fait. Elle a pris une décision que je respecte totalement, a-t-il simplement commenté. Par ailleurs, Maître Boulet n'a pas caché qu'il avait été un sympathisant libéral pendant un certain nombre d'années. J'ai rencontré des libéraux, je n'ai pas eu de discussion avec le PLQ. Il y a une occasion qui s'est présentée, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré l'espace d'une conversation, a-t-il admis en réponse à une question sur une possible candidature libérale. Quand on lui demande ce qu'il fera de mieux que Jean-Denis Girard, il souligne faire partie d'une équipe qui a une vision de l'avenir. Ce que je constate avec les libéraux, c'est qu'on a été austère et là, on saupoudre. Ce saupoudrage est un reflet d'un manque de vision et ça me préoccupe beaucoup, a-t-il répondu. Chose certaine, François Legault s'est ouvertement réjoui de pouvoir compter sur cet avocat spécialisé dans le droit du travail, qui soit autant impliqué et reconnu dans sa communauté, tantôt par sa présidence de la Chambre de commerce, tantôt par sa présidence de Centraide Mauricie, en passant par ses fonctions d'administrateur au sein d'organisations culturelles, portuaires et de santé. Deuxième électrocution en 5 jours, c'est dans Le Soleil. Un deuxième homme a perdu la vie à Québec en 5 jours après avoir été électrocuté alors qu'il émondait un arbre. La victime est un homme qui coupait les branches d'un arbre situé sur son terrain de la rue Alouette à Val-Bélair lundi après-midi. Selon la porte-parole de la police de Québec, l'agente Mélissa Clich, une branche serait tombée sur un fil électrique qui serait tombé à son tour pour donner une décharge électrique mortelle à l'homme. Victime d'un arrêt cardiaque, l'homme a été transporté par ambulance à l'hôpital où son décès a été constaté. C'est plutôt rare que 2 situations comme celle-là surviennent en moins d'une semaine. Dans l'autre cas, il s'agissait d'un émondeur. On conseille aux gens de faire appel à des émondeurs professionnels pour réaliser ces travaux et aux émondeurs de suivre à la lettre les règles que la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a mises en place, poursuit Mme Clich. Jeudi dernier, Marc-André Lavoie, 35 ans, est mort quand il a été électrocuté par un fil électrique qui passait à proximité de l'endroit où il coupait des branches. Hydro-Québec a signalé que l'entreprise privée pour laquelle il travaillait n'était pas accréditée pour travailler près du réseau électrique. Dans le droit, Sylvie Branch, caméra au feu rouge, les Québécois pourront se faire épingler. Les automobilistes québécois recevront des contraventions lorsqu'ils brûleront un feu rouge muni d'une caméra à Ottawa dès la fin du mois de juin. La ville estime que 4 500 contrevenants de la belle province n'ont pu recevoir l'amende de 325 $ l'an dernier. Selon les données fournies par la ville, 24 286 constats d'infraction ont été distribués l'an dernier dans le cadre du programme d'appareils photo reliés au feu rouge, ce qui représente 5,1 millions de dollars. Ces chiffres ne comprennent pas les 4 500 automobilistes québécois qui ont été photographiés à ces intersections. En date du 31 mars 2018, la ville a délivré 5 723 contraventions, ce qui représente des recettes de 2 millions de dollars. La Ville d'Ottawa et le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, CCATM, ont signé une entente sur l'accès au réseau d'échange interprovincial de dossiers le 25 avril dernier. En vertu de cette entente, le Québec, la Saskatchewan et le Yukon ont accepté de fournir leurs données sur la propriété de la plaque d'immatriculation. C'est une entente vraiment significative, estime le maire Jim Watson. Nous devions nous priver des revenus de plusieurs de ces tickets à moins que les gens les paient volontairement, ce qui n'était pas souvent le cas. Nous sommes venus à une entente qui va nous permettre de partager les informations. Depuis l'installation des premières caméras au feu rouge en 2000, les voitures immatriculées au Québec bénéficiaient d'une période de grâce puisque l'administration municipale n'avait pas accès aux données. Dans la tribune, Jonathan Cousteau, la lutte contre la grille du frein prend forme à Sherbrooke avec des dépenses anticipées de 400 000 $ cette année. Si les élus avaient budgété 185 000 $ en décembre dernier, ils ont approuvé des transferts de fonds de 115 000 $ et une nouvelle contribution de 100 000 $ pour limiter les ravages de cet insecte. Ils ont aussi adopté un assouplissement à leur règlement. Notre demande budgétaire était de 439 000 $ en septembre. Elle n'avait pas été accordée en entier parce que la grille du frein n'avait pas été confirmée à Sherbrooke. On nous avait dit qu'une fois que ce serait confirmé, il faudrait revenir au conseil, indique Guylaine Boutin, directrice du service de l'entretien et de la voirie. Madame Boutin estime qu'il faudra 5,7 millions en 10 ans pour mettre en place le plan d'action pour les freins publics et l'aide aux citoyens. Et finalement, Sherbrooke ouvre la porte aux poules tout le temps, toujours dans la tribune. Il pourrait bientôt être légal de garder des poules en milieu urbain à Sherbrooke. Le sujet a fait l'objet de discussions à huis clos mardi au conseil municipal. La conseillère Karine Godbout a néanmoins annoncé qu'une consultation publique sur le sujet se tiendrait le 7 juin. Vous écoutez le quotidien des quotidiens en ce mercredi 23 mai 2018. Merci de le faire. Vous écoutez la radio de Canal M de Vues et Voix et c'est Hélène Denis qui vous accompagne à venir les sujets libres, mais d'abord les actualités culturelles. Je vous parlerai entre autres de Gérard Depardieu, qui est au pays, qui est au Québec, qui chante ce soir à Montréal ainsi que demain soir. Hier, il était à l'Impérial de Québec. Plutôt, je ne sais pas où il était exactement, mais le titre, c'est Impérial, Gérard Depardieu. Bref, Normand Provencher a apprécié sa soirée et je vais vous lire sa critique. Et vous saurez où Gérard Depardieu s'est commis, si je puis dire ça ainsi.